Donc, c'est encore un privilège pour moi d'être ici pour vous apporter la parole, d'autant plus que c'est la fin de cette série de l'Épître aux Philippiens. Ça fait exactement 2 ans qu'on est sur ce thème, et 2 ans, vous savez, quand même, il y a eu des passages à vide, ainsi de suite, mais on est là avec la grâce de Dieu, on arrive à la fin. Et je pense que, comme on dit, toute fin est toujours bonne, et nous rendons grâce au Seigneur pour sa fidélité tout au long de ce chemin. Donc, je vais débuter avec la lecture. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai mentionné, nous finissons. Nous allons lire Philippiens 4, des versets 14 au verset 23, et j'ai intitulé ce message « Tous partenaires dans l'Évangile pour la gloire de notre Seigneur ». Lisons pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Philippiens 4, 14 à 23. « Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dents, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Donc, Paul, comme on l'a vu, a donné la priorité à l'œuvre de l'Évangile avant toute chose, même par rapport à son propre confort. On a vu qu'il n'avait pas de maison, il se baladait de ville en ville. Il était mécontent de lui-même, il restait insatisfait de sa condition, parce qu'il n'était pas encore parfait, comme on l'a vu selon Philippiens 3, verset 12. Mais il était de plus en plus satisfait en Christ. Il était de plus en plus sans joie avec l'œuvre que Christ faisait dans sa vie. Christ est devenu de plus en plus important pour lui, méritant même de tout perdre. On l'a vu au chapitre 3, des versets 3 à 8, valant même la peine de vivre et mourir pour Christ. Bien qu'il ne manque de rien, étant heureux et satisfait en Christ, il veut aussi que ses amis philippiens sache qu'il apprécie profondément leurs ailes, leurs dons à son endroit, et que cela pour lui est une source de bénédiction. Son explication des raisons pour lesquelles il en est ainsi, pourquoi ce don est une bénédiction, est particulièrement intéressante dans ces derniers passages, dans ces dernières recommandations de Paul dans cette lettre. Il est conscient du fait que l'amour des Philippiens pour lui est important. Il y avait beaucoup d'affinités, ils aimaient beaucoup Paul, et dès le début de l'existence de l'Église, ils ont soutenu la mission apostolique de Paul, que ce soit en Macédoine ou que ce soit à Thessalonique. Il avait aidé à maintes reprises, comme on le voit au verset 16. Donc, la gratitude de Paul à l'endroit des Philippiens était sincère. D'autres congrégations lui causaient des maux de tête persistants, comme on l'a vu avec les Corinthiens. Les Philippiens, quel que soit leur problème actuel, parce que nous avons vu qu'ils étaient dans une pauvreté extrême, n'arrêtaient pas de soutenir Paul. Ils n'étaient pas un fardeau pour Paul. Et Paul a une gratitude très profonde à l'endroit des Philippiens. En ce sens, il dit très peu par rapport à ce don qu'il a reçu et son utilité. Il se préoccupe davantage de l'engagement spirituel qu'exprime et que représente ce don. Ce lien spirituel qu'il crée et de la bénédiction que ce don va leur apporter. Donc, mon premier point, ce sera un partenariat pour l'évangile des versets 14 au verset 20. Et enfin, le dernier point, les salutations de Paul et la bénédiction finale. Donc, un partenariat pour l'évangile des versets 14 au verset 20. Et donc, après avoir fait un détour dans la pensée de Paul dans les précédents versets, des versets 11 à 13, là où il dit « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Paul revient maintenant au commentaire sur l'intérêt que les Philippiens lui ont manifesté à travers leurs dons, envoyés par le biais d'Épaphrodite. Quel que soit le don qu'ils ont envoyé, qu'il soit de nature financière, matérielle, ou peut-être un simple courrier, Paul indique clairement que lui et les Philippiens étaient des partenaires pour son ministère. Qu'ils étaient des partenaires pour son ministère d'évangélisation. Et puisque le ministère principal de Paul était de prêcher l'évangile à ceux qui n'avaient pas encore entendu parler de Christ, nous pouvons nous tourner vers ces versets pour un aperçu théologique de la raison pour laquelle le soutien de certains églises ou de certaines associations est importante pour les missionnaires. Le verset 14, « Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse », nous donne notre premier principe ici. S'associer dans les missions signifie partager les difficultés et les bénédictions. Les souffrances de Paul ne sont pas un secret pour personne. Peu de gens peuvent même imaginer persévérer malgré les épreuves auxquelles il a été confronté. Il énumère quelques-unes. On va les lire dans 2 Corinthiens 11, 24 à 28. 2 Corinthiens 11, 24 à 28. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Il précise, 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. C'est pas seulement un paradis terrestre, hein, l'église, hein. Certains le pensent, mais partout où nous sommes, nous allons avoir des difficultés. Nous allons être persécutés. Il y a des missionnaires qui sont flagellés, qui ne peuvent même pas se réunir, qui ne peuvent même pas exercer, pratiquer leur foi avec un zèle. Et nous, nous avons ce privilège. Parce que lorsque nous traversons des moments un tant soit peu difficiles, ben nous sommes plus en train à nous plaindre de ce que nous vivons. Mais nous voyons l'exemple de Paul ici. Parce que la plupart d'entre nous arrêteraient après avoir affronté ne fût-ce que même pas la moitié, même pas le tiers. On abdiquerait complètement. Et cette lettre a révélé une grande partie des raisons théologiques de la joie de l'apôtre au milieu d'une telle souffrance. Et cependant, Paul était également heureux de savoir que les églises, comme celle des Philippiens, étaient prêtes à partager ces épreuves avec lui. Ça l'encourageait, malgré le tas de persécutions, de difficultés qu'il pouvait avoir, mais savoir que les Philippiens partageaient ces épreuves avec lui, ça l'encourageait. Les Philippiens avaient été disposés à s'associer avec Paul dans les difficultés ou les afflictions qu'il avait vécues. Ils n'étaient pas seulement des partisans ou encore juste des employeurs ou pas seulement qui finançaient Paul. Ils furent appelés avec lui, partageant comme ils pouvaient ses souffrances, mais aussi ses soulagements. Paul laisse entendre que ces chrétiens se préparaient à expérimenter la privation financière afin de lui apporter du réconfort lorsqu'il était privé de liberté. Le mot partage, prendre part, ici dérive de la même racine que Paul utilise pour le partenariat au verset 15, lorsqu'il dit qu'aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Et dans Philippiens 1, verset 5, lorsqu'il dit « de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile ». Depuis le premier jour jusqu'à maintenant, c'était des fidèles du premier jour de Paul, quelle que soit l'extrême pauvreté dans laquelle ils étaient, mais ils étaient des soutiens de premières heures. Il décrit la communion fraternelle, la communauté ou la communion que partagent les disciples du Christ. Et un tel partenariat est une telle communauté, et une telle communauté sont les marques des vrais chrétiens. Parce que lorsque nous voulons devenir des partenaires pour l'évangile, nous ne devenons pas des casse-pieds. Nous nous entraidons mutuellement. Nous unissons nos forces pour faire progresser l'évangile. Que ce soit financièrement, par des prières, le fait de faire tout pour la gloire de Dieu, c'est ce qui fait de nous des partenaires pour l'évangile. Il est donc approprié que nous partagions également les souffrances de chacun d'entre nous. Que nous partagions nos souffrances. Que nous puissions prier les uns pour les autres. Et donc, la question que nous pouvons nous poser, c'est que comment un partenariat à distance, comme celui de Paul et des Philippiens, peut-il signifier de partager les difficultés de Paul en mission? Tout d'abord, nous devons nous rappeler que l'envoi d'Épaphrodite et de ce don était un sacrifice en soi, on l'a vu. C'était un sacrifice en soi. Le trajet de Philippe à Rome faisait environ 800 miles, donc environ 1300 kilomètres. Il n'y avait pas de jet privé à l'école à l'époque. Il n'y avait pas de Tesla pour aller plus vite. Mais il marchait 1300 kilomètres. C'était sacrificiel. Et en effet, comme nous devons le rappeler aussi, c'est qu'Épaphrodite a failli mourir en apportant ce don à Paul. Le risque d'envoyer quelqu'un vers Paul était donc grand. Et cependant, il y avait aussi un danger à manifester ce soutien ouvert à Paul. Et on se rappelle que Paul a été emprisonné parce qu'il proclamait l'évangile. Donc, il était indésirable à Rome. Les Romains considéraient Paul comme un ennemi de l'État, un danger pour la paix fragile, mosaïque, ethniquement diversifiée qui était l'Empire romain. Et donc, pour une ville aussi romanisée que Philippe, la connaissance d'un tel soutien aurait pu intensifier la persécution des Philippiens. Et tout ça représentait un risque pour eux. Mais ils l'ont pris. Enfin, nous devons également nous rappeler qu'il y a un grand réconfort spirituel, à savoir que des frères et sœurs prient pour nous. Et c'est ce réconfort que Paul avait, de savoir que les Philippiens priaient pour lui, que les Philippiens pensaient à lui, pensaient à son œuvre. Les Philippiens ne pouvaient pas s'asseoir avec lui en prison. Il était réconfortant de savoir qu'il s'inquiétait et priait tout le temps et constamment pour lui. Le simple fait de savoir que des chrétiens du monde entier implorait le Père pour lui et attendait avec impatience de ses nouvelles, a dû renforcer sa détermination à persévérer et à garder la joie, même en captivité. Et en tant qu'humain, il nous est impossible de connaître des jours de découragement aussi. En tant qu'humain, mais nous sommes encouragés parce que nous savons que Christ est avec nous. Nous savons que les frères et sœurs prient pour nous. Nous savons pertinemment que le Seigneur ne dort pas, il veille et nous garde. Sa houlette et son bâton, c'est cela qui nous rassure. C'est lui notre bon berger. Il prend soin de ses brebis. Dans les versets 15 et 16, Paul rappelle comment les Philippiens l'ont aidé à plusieurs reprises à répondre à ses besoins tout au long de son voyage, en Macédoine et même à Thessalonique. Thessalonique qui se trouve à 160 km de Philippe. Remarquez avec quel soin Paul formule les choses ici. Il ne dit pas que les Philippiens répondaient à tous ses besoins pendant qu'ils voyageaient dans leur région. Au lieu de cela, il dit qu'ils l'ont aidé à répondre à ses besoins. Ils ne prenaient pas complètement soin de Paul à 100%. Paul nous dit ici qu'il dit qu'ils l'ont aidé à répondre à ses besoins. L'apôtre prend soin de ne pas imposer un fardeau sur les Philippiens. Quel que soit ce qu'on veut, nos offrandes ne vont pas suffire à gagner tout le monde à Christ. C'est Dieu qui fait l'œuvre, en fait. C'est Dieu qui fait l'œuvre. C'est pas nos finances ou quoi que ce soit. C'est Dieu qui pourvoit pour cela. Donc, l'apôtre prend soin de ne pas imposer un fardeau trop lourd aux Philippiens, car ils n'avaient certainement pas la capacité de subvenir entièrement à ses besoins, compte tenu de leur extrémité, de leur pauvreté extrême, ni lorsqu'il était en Macédoine, et surtout lorsqu'il était à Rome, en captivité. Pourquoi ? Parce que Dieu seul pouvait répondre aux besoins de Paul. Dieu seul. Mais les Philippiens ont été utilisés par le Seigneur pour répondre à certains besoins de Paul. Ils ont été utilisés par le Seigneur pour répondre à certains besoins de Paul. De même, nous devons comprendre qu'en soutenant les missionnaires aujourd'hui, nous sommes appelés à répondre à leurs besoins, mais nous ne pouvons pas répondre à tous leurs besoins. C'est impossible. C'est impossible. Seul le Père peut leur apporter le soutien dont ils ont besoin. Seul Dieu peut leur apporter ce soutien. Mais c'est notre privilège d'être l'un des instruments par lesquels le Seigneur passe pour qu'on puisse les aider. Pour qu'on puisse être des partenaires pour l'Évangile. Des partenaires pour faire avancer son œuvre dans ce monde aussi corrompu et aussi perdu. Et donc cela nous évite deux erreurs courantes. L'orgueil et puis le découragement. Pourquoi l'orgueil ? Parce que l'orgueil, nous sommes tenus à l'écart de la fierté de nous dire que à cause de nous, nous avons pu soutenir la mission de Christ. Mais nous évitons également le découragement parce que nous savons que Dieu, en fin de compte, celui qui effectue le travail et répond aux besoins de sa providence, nous sommes encouragés parce que nous savons que Dieu prend soin de nous par sa providence. Nous avons donc la capacité de faire notre part avec joie, sachant que Dieu est le véritable pourvoyeur. Sinclair Ferguson note que cette relation spéciale était celle du donner et du recevoir. C'était un partenariat, chaque partenaire apportant quelque chose de différent à l'autre. Vu ainsi, les Philippiens ne deviendraient jamais jaloux du statut ou des dons de Paul. Et Paul ne se plaindrait pas non plus du fait que lui seul portait le fardeau du ministère chrétien. Il n'allait pas se sentir seul là-dedans. Il se sentait encouragé. Et il continue, c'est une description idéale des relations que nous devrions avoir et entretenir entre nous, les ministres et le peuple. Les missionnaires et les congrégations qui les soutiennent devraient apprendre de l'exemple de Paul. Aujourd'hui, s'il y a des associations, je pense que vous avez été à Arbinet, vous voyez tous ces missionnaires de par le monde qu'on soutient. C'est que c'est ce partenariat-là pour faire avancer l'Église. Lorsque nous prions pour nos églises, pour notre association, nous savons d'un côté que chacune a ses difficultés au quotidien, à ses persécutions en interne. Mais c'est le lot de l'Église. Et que nous prions, nous intercédons pour eux, mais en sachant que c'est Dieu seul qui leur vient en aide. C'est pas parce que nous allons leur envoyer de l'argent ou quoi que ce soit. Ce qui va peut-être leur satisfaire, leur aider temporairement, mais c'est le Seigneur qui pourvoit à leurs besoins. Le point que Paul souligne ici est l'empressement, le zèle des Philippiens à lui envoyer quelque chose, que ce soit à Thessalonique. Et avec une certaine cohérence, ils ont continué à le faire encore et encore. En fait, ils étaient fidèles dans ces choses-là. C'est cette fidélité qu'on voit que les Philippiens avaient. Ils étaient fidèles dans leur démarche par rapport à ce partenariat. Acte 16 montre que dès que le Seigneur a ouvert le cœur de Lydia pour qu'elle croie à l'Évangile, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a immédiatement ouvert sa maison à Paul et à son équipe de missionnaires. Il y avait ce zèle, elle s'est emparée de ce zèle pour devenir ce partenaire, pour faire avancer l'Évangile. Et lorsque Paul et ses compagnons quittèrent Philippe, toute l'Église montra la même générosité et cette même reconnaissance à la grâce de Dieu. Tout simplement, ils ont trouvé une manière concrète de transmettre leur amour pour Jésus à son missionnaire. Et au verset 17, lorsqu'il dit « Ce n'est pas que je cherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. » Et donc là, Paul réitère encore sa mentalité altruiste. Il ne pense pas qu'à lui, en fait, mais il pense aux autres. Les autres occupaient toujours la première place dans les pensées de Paul. Il ne recherchait pas les dons dans le but de satisfaire ses propres besoins, mais il désirait plutôt que les fruits spirituels abondent pour le compte des Philippiens. Le langage de Paul ici est indéniablement financier. Je recherche le profit qui revient à votre compte. La motivation n'est pas d'éviter de parler d'argent, parce que l'argent est une question profondément spirituelle. Le Seigneur Jésus lui-même l'a dévoilé dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu 6, 19 à 21, lorsqu'il dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Où est notre cœur dans ce partenariat? Il est où concrètement notre cœur? Est-ce que nous voulons saboter l'Évangile? Est-ce que nous voulons entraver l'avancement de l'Évangile? Ou d'être des participants, des partenaires fidèles dans les petites choses? Comme Paul, Jésus décrit une sorte d'investissement céleste, stockant nos trésors au ciel plutôt que sur la terre. Sur terre, les économies peuvent se perdre, on le voit. Quand on a notre première paye et tout va dans les factures, il ne nous reste plus rien. Et souvent, on se questionne. Tout cela est éphémère, ici, bas. En un instant, des personnes très riches ont été réduites à la pauvreté. On l'a appris dans Ecclésiaste 5. Les fonds terrestres ne sont jamais entièrement sûrs, mais qu'est-ce qui peut nous priver de notre trésor céleste? Investir dans le royaume de Dieu s'avérera jamais dangereux. Cherchez le royaume des cieux avant tout et la justice de Dieu. En soutenant Paul, les Philippiens faisaient exactement cela. Leur partenariat dans le ministère de Paul était un investissement pour le royaume de Dieu, pour l'avancement de son évangile. Un jour, lorsque l'évangile se sera répandu sur toute la terre et que Jésus reviendra comme roi, un tel investissement, chaque fois que nous soutenons la propagation de la bonne nouvelle, donnée généreusement aux efforts de l'Église, est pour nous tous un investissement céleste. Ce n'est pas seulement donner de l'argent, mais donner de notre temps et aussi notre corps. Notre corps qui est le temple de Christ. De nous donner entièrement pour l'avancement de Christ. De nous investir. Pas un pied dedans, un pied dehors, mais d'être zélé dans cette marche. Ce que Paul trouve si rafraîchissant chez ses amis philippiens, c'est que même s'ils ont des soucis d'argent et ont besoin d'appliquer l'antidote comme on a vu dans Philippiens 4, verset 6, leur cœur est néanmoins ouvert aux autres. Malgré leurs conditions, ils s'oublient, mais ils pensent aux autres. Ils sont pauvres en argent, mais riches en joie, et donc désireux de répondre aux besoins des autres. Qu'il s'agisse de croyants affamés en Judée ou d'un missionnaire comme Paul a un budget réduit à Rome en captivité. Leurs dons et leur façon de partager sa peine, de devenir des partenaires de Paul dans la douleur. Le don remis par Épaphrodite après son voyage ardu et au péril de sa vie, ce n'est pas un chèque rédigé à la hâte ou un transfert interact qui n'allait pas leur faire mal, mais c'est un don qui allait leur faire mal parce qu'ils étaient pauvres. Au verset 18, Paul revient maintenant sur la signification de ce don. Tout d'abord, il les assure de sa satisfaction quant à leur don. En effet, nous nous attendrions à ce que la prison ait mis Paul dans une situation de besoin, de plainte. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de manger, j'ai rien. Mais il écrit aux Philippiens et il dit « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. » Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Amen. En d'autres termes, il comprend l'immense grâce que Dieu lui a accordée grâce à la générosité de l'Église de Philippe. Mais une fois de plus, il ne met plus d'emphase envers les Philippiens alors qu'il appelle leur don comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Après avoir utilisé un langage financier, Paul utilise désormais un langage de sacrifice qu'on retrouve dans l'Ancien Testament pour décrire ce partenariat avec lui. Comme un sacrifice fait sur l'autel du temple, tel est le don des Philippiens pour répondre aux besoins de Paul. C'est une offrande à Dieu de ce qu'il nous a généreusement donné. C'est Dieu qui pourvoit à nos besoins. Si nous lui donnons, c'est parce qu'il nous donne. Dans l'Ancien Testament, les offrandes étaient faites à Dieu en remerciement et en reconnaissance du fait qu'il donne tout ce que nous avons besoin. Le sacrifice d'un animal était donc certes un sacrifice financier, mais cela servait à rappeler physiquement que toutes choses, en fin de compte, appartiennent à Dieu. Et donc de cette manière, un sacrifice est une forme de reconnaissance envers Dieu. Et même l'expression « parfum de bonne odeur » fut utilisée dans Lévitique, dans la Septante, pour désigner un sacrifice qui était agréable à Dieu. Et on le voit aussi dans Éphésiens 2, verset 2, pour faire référence au sacrifice de Christ. Ainsi, Paul informe les Philippiens que le même événement se produit avec leurs dents. Que c'était un sacrifice de bonne odeur à la gloire de Dieu. Leurs dents étaient un sacrifice de l'argent qui pourrait être utilisé pour répondre à d'autres besoins. Ils étaient déjà dans des difficultés. Cet argent aurait pu servir à autre chose. Mais il l'a envoyé à Paul. Et donc leurs dents à Paul ne concernait finalement pas Paul, mais Dieu. Et Jean Calvin, dans l'Institution de la religion chrétienne, mentionne que ainsi, les aumônes et les bienfaits sont appelés des sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. De cette manière, généralement, la libéralité des Philippiens qui ont subvenu aux besoins de Paul est qualifiée de parfum de bonne odeur et toutes les œuvres des croyants sont des sacrifices spirituels. Et au verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » L'attention de Paul revient une fois de plus sur le bénéfice des Philippiens par rapport à ce don. Et ce puissant verset est essentiellement l'expression de la confiance de l'apôtre que notre Dieu est un Dieu qui est fidèle. Surtout dans la culture de l'Empire romain où donner et recevoir était un genre de redevabilité. C'est que si je te donne, je m'attends à ce que tu me redonnes. Mais Paul ici vient inverser cette habitude, assurant aux Philippiens que Dieu lui-même s'occuperait de la faim de Paul et que Dieu s'occuperait de tout. Tout en sachant que Dieu, en sachant que l'autre personne vous est redevable, pourrait conduire à un don non généreux. Parce que lorsque nous attendons, c'est plus généreux, là. C'est un peu égoïste aussi. Paul modifie ses attentes en les désignant vers Dieu comme celui qui leur donnerait en retour. Or, ce verset peut très facilement être considéré comme un support, et il est considéré comme un support de l'évangile de la prospérité. Paul ne dit pas « donnez un dollar pour que vous receviez 10 dollars ». Non, il ne dit pas ça ici. Paul ne dit pas que l'incrédulité et l'avarice ont enfermé nos trésors du ciel. Ce n'est pas ce qu'il dit ici. Pas du tout. Paul promet à ses amis bien plus qu'un simple remboursement monétaire ou la richesse. Aucune somme d'argent ne peut combler tous leurs besoins, car ce dont ils ont besoin, c'est d'un cœur libéré, c'est d'un cœur renouvelé. Et c'est Dieu qui fait cette œuvre, et ce n'est pas l'homme, ce n'est pas les finances qui le font. La promesse de Paul aux Philippiens, qui étaient pauvres en argent mais riches en foi, ressemble aux assurances qu'il a données aux chrétiens les plus riches de Corinthe, dans 2 Corinthiens 9, 10 à 14. Au lieu de cela, il dit que s'il continue à s'associer à la propagation de l'Évangile, Dieu continuera à leur donner la capacité de le faire. C'est Dieu qui donne la capacité d'avancer. En d'autres termes, pendant qu'ils accomplissaient l'œuvre d'expansion du royaume de Dieu, Dieu serait fidèle pour subvenir à tous leurs besoins. Dieu ne manquerait pas de récompenser les Philippiens pour leur libéralité. Et lorsqu'on considère le verset 19 comme suivant les versets 14 à 18, qui sont cruciaux pour notre mentalité de chrétien, donateur, sacrificiel, parce que trop souvent, soit nous donnons moins que nous le devrions, soit nous donnons pas parce qu'on se dit qu'on attend que le Seigneur, que Dieu nous donne plus que ce que nous avons pour donner. Cependant, Dieu attend de nous que nous donnions de manière sacrificielle, tout en lui faisant confiance. En effet, si nous soutenons l'œuvre de son royaume, Dieu sera fidèle à nous soutenir. Cela ne veut pas dire que nous devons donner pour être bénis de Dieu. Non. Cependant, c'est une promesse que Dieu pourvoira à son œuvre. C'est cette promesse que nous devrions avoir en tête. Dieu désire que toutes les nations soient des disciples et il sera fidèle à financer la mission, à financer ceux qu'il souhaite financer. Et sans surprise, toutes ces discussions sur les partenariats, le don et le fait d'être approvisionné emmènent Paul à se lancer dans une doxologie de louange. Tout comme notre provision de la part de Dieu ne vient que de ses richesses en Jésus-Christ. De même, l'apôtre souligne encore une fois que Dieu reçoit la gloire de toutes choses. Oui, nous sommes appelés à faire notre part pour notre travail parce que c'est le Père qui nous permet de le faire en premier lieu. C'est lui qui nous donne le vouloir et le faire. Dans la propagation de l'Évangile, comme dans l'Évangile lui-même, la gloire revient à Dieu seul. Mon deuxième point, salutation et la bénédiction finale de Paul, des versets 21 au verset 23. Paul conclut sa lettre en échangeant des salutations. Il souhaite que des salutations soient envoyées de sa part et celles de tous les saints, à chaque croyant qui est avec eux. Bien qu'il s'agisse d'un élément commun aux chrétiens qui s'expriment les uns envers les autres, parce qu'on voit souvent les salutations, dans les épîtres de Paul surtout, la véritable surprise ici, c'est l'inclusion de la maison de César par Paul. Et nos esprits devraient nous rappeler l'assurance de Paul dans le chapitre 1, verset 13, selon laquelle, grâce à son emprisonnement, même la garde prétorienne avait entendu l'Évangile. Maintenant, comme pour réconforter davantage les Philippiens, Paul leur fait savoir subtilement que même les membres de la maison de l'empereur croient au Seigneur Jésus-Christ. Et donc, il s'agit là d'une puissante prédiction de l'omniprésence de l'Évangile de Christ. Même si Paul serait décapité, la parole de Dieu, l'Évangile, aurait fait son chemin, aurait eu cet impact à Rome. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Il écrit au verset 23. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Et il revient sur le même terme le même thème plutôt de son temps d'ouverture. Et de manière peu significative, Paul ici associe un nom singulier, esprit, qui est en singulier, avec un pronom pluriel, votre. Votre esprit plutôt que vos esprits. Le choix des mots peut pour nous n'avoir aucune signification. Mais Paul prie peut-être simplement pour que l'esprit de chaque membre connaisse la grâce de Christ. Il est cependant tentant de penser qu'il y a un lien ou un écho avec ses paroles antérieures lorsqu'il a fait l'exhortation à la persévérance dans le chapitre 1, verset 27, lorsqu'il dit « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant de même âme pour la foi de l'Évangile, d'un même esprit. » Et donc une telle unité, c'était la prière de Paul. C'était la prière de Paul. Sa seule origine possible est la grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'était vrai au premier siècle et c'est aussi vrai pour nous aujourd'hui. En conclusion, dans une lettre aussi christocentrique que celle aux Philippiens, il nous convient de terminer par un retour vers Jésus-Christ. La dernière prière de Paul est que la grâce de Jésus soit avec eux. C'était la plus grande prière que Paul pouvait leur faire. Car ce n'est que par la grâce imméritée du Christ qu'il pouvait saisir la joie présentée dans cette lettre. Et 2000 ans plus tard, c'est toujours la même chose pour nous, aujourd'hui. Je vais clôturer sur un air réformé baptiste de Sola Gratia, avec tout ce que nous avons vu depuis le début. Par la grâce seule, nous avons l'espoir d'être accomplis au jour de Jésus-Christ. Par la grâce seule, notre amour continuera à abonder de plus en plus. Par la grâce seule, notre vie est Christ. Par la grâce seule, notre mort est un gain. Par la grâce seule, nous nous comportons comme des citoyens dignes de l'Évangile. Par la grâce seule, nous sommes unifiés dans nos esprits et nos cœurs, les uns envers les autres. Par la grâce seule, nous nous revêtons de l'humilité du Christ, traitant les autres comme étant meilleurs que nous-mêmes. Par la grâce seule, nous travaillons à notre propre salut avec crainte et tremblement. Par la grâce seule, nous connaissons Christ et la puissance de sa résurrection. Par la grâce seule, nous sommes citoyens du ciel, attendant le Sauveur qui transformera nos humbles corps pour qu'il ressemble à son corps glorieux. Par la grâce seule, nous sommes satisfaits dans chaque situation étant fortifiés par Jésus-Christ lui-même. Par la grâce seule, nous sommes partenaires de la progression de l'Évangile dans toutes les nations. Par la grâce seule, nous nous réjouissons toujours dans le Seigneur, quelles que soient les circonstances et quelles que soient les tribulations. Par la grâce seule, nous considérons tout comme vanité pour l'amour de Christ. Puissions-nous nous reposer constamment et continuellement sur la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, quel privilège de nous nourrir de ta parole, de ta vérité puissante, de cette vérité, Seigneur, qui transcende notre être, qui nous montre à quel point tu es un Dieu qui est fidèle dans toutes choses, un Dieu qui prend soin de ses brebis. Seigneur, nous te prions afin que cette parole, que tout ce que nous avons vu, puisse porter un fruit, des fruits dans nos vies éternelles. Afin que par ta grâce, que nous soyons des modèles pour ton évangile. Que nous puissions être ses partenaires, zélés pour la cause de l'évangile. Que nous puissions nous donner corps et âme, sacrificiellement, pour l'avancement de ton œuvre. Seigneur, cette lettre est une bénédiction pour l'Église. C'est une grâce pour l'Église. Merci pour ton sacrifice. Christ, mort pour nous, humilié sur la croix, qui a souffert, mais qui a été obéissant pour accomplir le plan de Dieu, le Père. Afin de nous donner la vie éternelle par sa grâce, afin de nous sauver de nos péchés. Seigneur, nous te prions afin que nous puissions saisir l'importance de cette parole et que nous puissions l'attacher profondément en nous et qu'elle puisse porter du fruit autour de nous également et que nous soyons ces personnes, ces hommes, ces femmes, ces enfants qui marchent pour la cause de l'Évangile. Merci pour tes bienfaits. Et je te prie pour cette Église éternelle que tu connais très bien et que tu as dirigée, que tu as construit malgré vents et marées. Merci pour la fidélité des hommes, Seigneur, la fidélité des femmes, la fidélité de chacun dans les petites choses et pour l'engagement de tous pour que nous soyons des partenaires à faire avancer ton œuvre éternelle. Que la gloire et l'honneur te reviennent. C'est au nom de ton Fils Jésus que j'ai prié. Amen.